10 ans après, c'est la fin de la série Les Histoires du cinéma, enfin Histoire du cinéma, avec S entre parenthèses. Quand je vois l'ensemble, il y a une première chose qui m'a frappé, c'est que dans l'avant-dernière, qui est le contrôle du pouvoir, il y a une phrase...
Le contrôle de l'univers.
Pardon, le contrôle de l'univers. Il y a une phrase qui dit que Hitchcock est le seul poète maudit qui a réussi commercialement, parce qu'il est inventeur de formes, et puis il s'est développé. Mais il y a une chose qui me frappe, c'est les moments dont on se rappelle, dont vous parlez. On ne se rappelle pas pourquoi John Fontaine fait ça, mais on se rappelle qu'elle est devant le précipice et tout. Et là, on a chacun son histoire. Ça m'a fait me souvenir d'une chose, c'est que avant la cinéphilie ardente et d'analyse, quand des films vus dans l'enfance ou l'adolescence, c'est des moments comme ça qui frappent. Et quand on revoit les films 15-20 ans après, ces moments-là frappent encore. Comme si...
Les bons.
Comme s'il y avait des moments qui allaient au-delà même d'un récit ou d'une histoire.
Oui, mais souvent quand on les revoit, on est toujours frappé, mais on s'est oublié soi et on ne se souvient plus pourquoi on a été frappé. Mais en fait, on se souvient du moment du film. Et chez Hitchcock, c'est encore plus, puisqu'on se souvient... Enfin, c'est comme la Madeleine de Proust. Il se souvient pas de la... Il se souvient très bien de la Madeleine, mais il ne se souvient plus de lui. Et alors, il doit commencer à écrire où ce qu'il était. Ça lui prend 8 volumes. C'est soi dont on ne se souvient plus. Par contre, les moments, s'ils le disent tous, ou dans les mémoires d'Outre-Tombe, de Chateaubriand, mais c'est lui qui l'a oublié. Combourg, il s'en souvient. On s'en souvient tout. Et si on ne s'en souvient pas, c'est parce qu'on ne se souvient pas de soi. Parce qu'il y a une partie qu'on doit oublier. Et les films, je pense, sont là d'une façon plus intéressante que d'autres, parce qu'elles sont données par des moyens naturels, par l'invention technique qui était le cinéma, et qui vous rappelle ce droit de la mémoire à intervenir sur votre vie. C'est les cailloux du petit Poucet, si vous voulez.
Mais quand vous avez fait cette série, au début, dans les premiers, vous aviez tendance à citer... Le film montré, pas là.
C'était ce dont moi je me souvenais aujourd'hui, de l'époque des cahiers, de l'anglois, et c'est que ça, c'était très cinéma. Puis après, c'est allé... Mais qu'est-ce que c'est que c'est... Quel est le trajet du petit Poucet? C'est mes cailloux, mais ces cailloux rendent compte d'un certain trajet, et ce trajet doit exister chez tout le monde d'une autre façon, ou c'est d'autres trajets, et dans quelle forêt sommes-nous, et quelle est l'histoire de la forêt aussi.
Et puis, où on les a ramassés et où on les a mis.
Ce qui fait que les premiers sont... je dirais très cinématographique. Il y a beaucoup plus de choses, de sons, d'épisodes, de plans. Il y en a même trop. Puis petit à petit, quand je les ai revus tous d'une seule fois à l'occasion du dernier, après les derniers, du reste, c'est les cailloux qui parlent entre eux. C'est les vrais films d'archives qui ne sont pas faits aujourd'hui, car il y a une utilisation des archives et un pillage des archives. Un des derniers exemples, c'est même ce film commercial d'Alain René qui pille des petits bouts de chansons, qui s'en sert et qui ne rend pas hommage vraiment à ces chansons qui font partie de l'histoire de France et qui ne fait pas le film qu'il aurait dû faire, qui met ça au service de rien.
D'un ludique,
de pas grand chose. Et alors donc les derniers, c'est pour moi déjà la 4A et la 4B, il n'y a plus aucun texte de moi où c'est moi dans les... mais moi je ne suis que l'archiviste ou Clio comme on le dit dans le dernier, et qui fait parler les archives entre elles, ce que les gens ne font pas. Ils font parler les archives au nom de que... Même les archives juives, en ce moment, dont on parle, il ne les fait pas parler avec quelque chose. Par exemple, moi, je mets automatiquement un plan d'une petite fille palestinienne qui déclame, puis après, je mets la chanson juive dans « Jeune fille ». Voilà, les deux se parlent. Moi, c'est les mains que j'ai fait réunir. C'est pour ça que j'avais mis ce texte de Denis de Rougemont qui s'appelait, dans l'épisode, je vous ai dit, qui s'appelle « Penser avec les mains ».
Mais les cailloux que le petit poussait, mais il les a ramassés quelque part avant de les mettre quelque part.
Ben oui, ben l'histoire, c'est ce quelque part.
Et tous les cailloux dans les histoires du cinéma, c'est ceux que vous avez ramassés, vous les avez trouvés où dans la mémoire?
Bon, on me les a, à la fois, je les ai ramassés, je les ai lancés sur des autres et on me les a lancés dessus.
Mais dans la
Je
mémoire.
me souviens d'une histoire, je ne sais pas si c'est vrai, qui disait que Buñuel, à la première de L'Âge d'or aux Ursulines, il y était allé avec, les poches remplies de cailloux. Et il disait, c'était pour lancer sur les gens qui aimeraient, si jamais ils aimaient le film.
Et finalement, il
Je
les a
sais
pas
pas,
jetés.
je sais pas.
Non, non, il a raconté souvent cette anecdote. Et il a dit parfois ceux qui n'aimeraient pas le film. Et après, il a dit ceux qui aimeraient le film. Il a
Voilà, il a
joué
dû changer,
du deux. Mais
il
bon,
a dû
ça
enjoliver la
a dû
légende.
enjoliver. Non, parce que je parle de ces cailloux où on les ramasse. Parce que moi, ce qui m'a frappé dès le début de votre
Mais
travail.
chez Hitchcock, c'était beaucoup plus frappant qu'un autre, et c'est en ça qu'il a.
Oui, mais ça rejoint, je vous interromps, ça rejoint
Il
votre
n'a
texte
pas.
sur les colonnes, sur l'homme qui en savait trop dans les cahiers. Quand vous disiez, les gens disent que c'est un film où on voit un peu trop les ficelles, mais ces ficelles sont des colonnes de marbre, vous disiez.
Ouais.
On se rappelle plus d'une colonne de marbre qu'un bout de ficelle.
Mais c'est frappant, ceux qui s'en souviennent, qui se souviennent ça. Alors que l'autre film, on se souvient. On se souvient pas, je sais pas, mais on se souvient d'objets incroyables, enfin, de rien, d'une bouteille. Si vous parlez de Notorious, aux gens se souviennent d'une bouteille de vin.
Je ne me souviens même pas.
Plus que du baiser encore, qui était.
Mais par contre, c'est drôle parce qu'il y a certains films dont on ne se souvient de rien. Il y a des films que l'on voit et dont on peut les revoir 10 ans après par hasard en zappant à une télévision et il faut attendre 20 minutes pour se dire, mais j'ai déjà dû voir ce film. Bon. Et il y avait quelqu'un qui avait une expression dans le ciné-club de Delaude à Lille, je me souviens, un peu vulgaire mais tout à fait clair, il y avait des films, on les voit. On va pisser après, et on a pissé le film, on s'en souviendra jamais. Et il y a des films, il n'y a rien à faire, même si on pense qu'on ne l'aime pas, il y a des images qui vous reviennent. Est-ce que c'est un critère de qualité que ça revient comme ça, le ressac?
Non, je ne pense pas que c'est pas un critère de qualité, mais je me demande, il faudrait que quelqu'un fasse l'examen honnête si on se souvient d'un mauvais film. En fait, c'est pas, on se souvient pas du film, on doit se souvenir du moment émotionnel ou sociologique important. Moi, je me souviens d'un film qui s'appelle Angelica, par exemple, avec Viviane Romance. Je suis pas sûr de me tromper. Et je me souviens, j'avais vu au Helder. Mais je me souviens aussi que c'était la première fois où mon oncle m'avait emmené de la rive gauche sur la rive droite. Et j'avais le sentiment, quand on a traversé le pont de la Concorde ou de l'Alma, c'était plein de lumière et qu'on arrivait dans un monde de lumière et que le boulevard des Italiens, puisque c'était au boulevard des Italiens, donc c'était un autre monde plein de lumière. Et je me souviens de ce titre, Angelica, et de Viviane Romance. Le film, j'en sais rien du tout. Il y en avait un autre comme ça, je sais pas, qui s'appelait La Ferme du Pendu. Après, je
Je
crois
crois
que
que
c'est
c'est Dréville.
un film de Dréville, comme
Oui.
ça. Je me souviens absolument pas. Mais je me souviens de ce moment-là. Je me souviens pas. J'ai gardé de l'amitié beaucoup pour Bardèche et Brasillach, à cause de leur première histoire du cinéma, qui n'était pas une histoire universitaire, mais une histoire de, quand même,
Émotionnel.
émotionnelle.
Mais justement,
Mais ce qu'il disait, ce livre, je ne me souviens pas d'une seule phrase ou d'une seule opinion.
oui, mais alors là, on touche
Alors que de
à...
Bazin, de
Oui.
certains autres, même de Jean-Georges Auriol, je me souviens de. D'un certain nombre de. Mais du reste, je l'ai mis dans le film, dans un des films d'histoire du cinéma. Je me souviens de Marie Duncan. Tous les numéros de la revue du cinéma avec bandeau rouge, il y avait une photo de Marie Duncan. C'était la favorite de Jean-Georges Auriol. Moi, je ne l'ai jamais vue. J'ai même jamais vu La Femme au corbeau. Je l'ai en cassette, mais je ne l'ai même pas regardée.
Ah, c'est beau, Borzague.
Mais ça doit être un beau film. J'ai mis un plan d'elle quand même.
Mais alors, moi, je repars sur une chose, c'est que quand il y avait, dans les premières histoires du cinéma, on citait les titres de
Moi, je
films.
crois que ce dont on s'en souvient, pardon, mais c'est que un des aspects de la mise en scène du cinéma qui a disparu aujourd'hui, qu'on voit ressurgir par moments comme une ancienne qualité, mais sous forme dans certains films, c'est que le plan a disparu. La notion de plan, qui était faire un plan, puis ensuite un autre plan, c'est plus tout à fait ça avec le numérique. Et Chris, il faudra en parler, Chris, puisqu'il il a relativement jamais fait de plan, Chris. Il y a quelquefois des beaux plans qui naissent, mais il n'est pas dans le plan. Mais quand on se souvient d'un film, je crois qu'on se souvient d'abord, si on peut s'en souvenir, c'est parce qu'il y a un plan et qu'il y a quelque chose qui tient. J'appellerais un plan ce qui reste de Delphes ou ce qui reste de l'Acropole.
La trace.
Oui, mais c'est une trace qui est une trace de plan aussi.
Mais si cette
ce n'est pas juste un cadavre ou un bout de pied. Du mur de Berlin, il ne restera rien parce qu'il n'y a pas de... La pierre qui en reste n'est pas un plan. N'est pas une trace de plan ou de quelque chose. Elle n'est pas...
Il faut peut-être la marque pour qu'il y ait la trace.
Alors c'est une marque qui... Enfin, je ne sais pas. Puis les mots, à des moments là, peuvent pas dire où il faut faire tout un travail de...
Oui, marque, j'entends, ça peut être la marque en elle-même sur le plan, mais ça peut être la marque qu'elle a eue en soi. On revient à ce terme de Céline disant au début était l'émotion. S'il n'y a pas l'émotion, il n'y a pas la pensée.
Mais le cinéma ou la mise, il y avait une construction aujourd'hui. Il y a moins de construction. Il y a quasiment plus de construction dans la fabrication de films. Un plan, je ne sais pas comment font les gens, mais ça sent très bien. Et il y a des films à des moments qui font encore des plans, mais qui ne sont pas forcément bien. Et alors la critique dit tout de suite, c'est du Bresson, c'est du comme ça. Non, parce qu'elle est frappée par le fait que c'est...
C'est un cadre.
Qu'il y a un cadre encore, c'est ça.
Mais là, on touche le problème, je crois, fondamental, c'est qu'aujourd'hui, l'idée de montage chez un cinéaste n'a plus à voir avec l'idée des plans qui existent en eux-mêmes et qui doivent se raccorder.
Mais elle n'a jamais eu lieu, ça. C'est ce que
jamais.
Dans l'histoire du cinéma.
Il y a des cas, quand même.
Jamais eu lieu. Il y a eu des recherches que les Russes et griffés, et les Russes qui ont. Mais les Russes l'ont fait à un moment historique.
Oui.
Ils l'ont fait à un moment hystérique et historique aussi.
Les deux.
Mais il y a eu ça, je veux dire, je trouve, on voit très bien, il y a eu les Américains, les Français n'ont pas eu ça. Il y a eu les Allemands et les Russes qui ont fait. Les Allemands partaient de la notion une notion d'ensemble. Et il revenait, plus fameux, c'est le dernier des hommes, où il y a une idée du monde, une idée philosophique, enfin toute la philosophie allemande aussi est comme ça, qui est très différente de la philosophie française. Et les Russes, au contraire, sont partis de... Enfin, il n'y en a eu qu'un, c'est Eisenstein quand même. Quand on revoit, et du reste, ils ont servi après ces plans, ils servent dans les actualités. Un plan de Vertov ne sert pas dans les actualités. Le plan d'octobre de la foule sert dans toutes les actualités.
Il est devenu le plan historique alors qu'il est la fiction.
Il est devenu le plan historique de la prise du Palais d'Hiver.
Alors que c'est une fiction.
Et comme ça, alors qu'il y avait trois bons hommes, comme dans les Carabiniers. Encore, on doit exagérer, mais il est devenu. Donc, et les deux sont de l'histoire. Les deux sont de l'histoire et les historiens ne font jamais les deux. Mais Eisenstein, c'était quelqu'un qui avait des angles. Et le fameux plan des trois lions, il n'y a pas de montage là.
Oui, dans Octobre, le lion assis, le lion se levant
un
peu.
Le lion qui dort, le lion qui se réveille, le lion qui se dresse. Il n'y avait pas de montage. Par exemple, l'expérience de Kouleshov, personne ne s'en souvient. On se souvient parce qu'on l'a décrite. Mais on ne se souvient pas du plan.
Si je me souviens, c'est Mosiukin regardant une femme regardant du pain.
Si je me souviens bien, mais vous ne vous souvenez pas du plan. Vous vous souvenez
très vaguement
de la phrase qui le décrit et des textes qui l'ont décrit. On ne l'a jamais vu et ça ne vous a pas...
Je n'ai jamais vu.
il n'a peut-être jamais été fait, seulement raconté.
Oui, c'est peut-être un élément théorique.
On ne sait pas, tandis qu'Eisenstein... Il fait trois plans, mais il y a de tels angles que leur succession provoque effectivement une idée de un début d'idée de montage, et c'est ça, mais ensuite, et qui ne continue pas après, parce que la parole et le texte, et tout de suite, il n'y a pas besoin de lire Souvarine, nous, si on savait, moi, très en retard, mais on dirait, bon, ben, c'est foutu, ça va se passer comme ça.
Mais par exemple,
c'est
vous
foutu,
montrez...
le cinéma russe a duré... Avec son élan, cet élan a duré 3, puis ensuite s'est éparpillé dans des individualités. Mmh. Mais quand on remet, ça m'a frappé, dans la toute dernière, j'ai remis un plan classique de Newski, des chevaliers qui baissent leur lance, oui. et comme ça, on dit, ah oh mon Dieu, il savait, ou le plan dans Ivan le Terrible, ça, un livre, et puis les mains qui...
Les mains sur le livre.
Ça, c'est des plans à la Hitchcock, par exemple.
Oui, mais ça, oui, parce que c'est des plans qui synthétisent avec l'émotion.
Alors là, on se souvient du plan. Sinon, si on ne s'en souvient pas, c'est que le film était mauvais, mais que nous, on était bons à ce moment-là. Et qu'on a fait un truc intéressant pour nous, pour notre vie à ce moment-là.
Oui, mais à partir du moment où c'est l'émotion, le discours n'est pas forcément avec un savoir, ça peut être avec un imaginaire. Et l'imaginaire, c'est intéressant, parce que chaque fois qu'on voit un film, on a un imaginaire qui fonctionne, qu'on le veuille ou non. Pas seulement uniquement celui du cinéaste, c'était le sien. Et pendant des années, on a voulu nous faire croire que le film était le seul imaginaire avec lequel on fonctionnait quand on voyait un film. Vous ne croyez pas que... Ce qui a été formidable dans la critique des Cahiers jaunes, si on parle de cette période, même les textes très...
Mais que c'était plus près du film.
Oui, mais avec l'imaginaire de chacun.
Ça a très disparu avec l'imaginaire de chacun, et les critiques de chacun étaient très différentes.
Absolument.
C'était très, très différent.
Tomarki n'écrivait pas comme Bazin, qui n'écrivait pas comme Truffaut.
Non,
comme
mais
vous.
C'était quatre histoires très, très différentes. La passion de Tomarki pour Sitcharis et Hegel en même temps, je veux dire.
Est-ce incompatible?
Ben, c'est l'histoire de Tomarki qui était intéressante.
Oui,
là.
Bien sûr. Et que quand on relit les critiques de Truffaut, c'est déjà le cinéma qu'il veut faire dont il parle.
Tout à fait.
Plus que du cinéma qu'il voit.
Tout à fait. Oui. Pas tout de suite.
À partir de...
Il y a pensé...
L'époque de Haar.
Oui, mais Haar, déjà, il cessait. Il était plus polémique, plus éditorialiste. Avant, il était... Et du reste, c'est pour ça que ça a eu beaucoup d'effet, parce qu'il parlait des films. Il n'avait pas besoin de dire qu'Autant Lara était un salaud. Il avait qu'à décrire 3 plans d'année, a eu un ou deux moments encore
tout
comme
fait,
ça.
Oui. Mais vous aviez fait un texte qui m'avait beaucoup frappé, j'étais gamin à l'époque, parce que c'est le premier texte critique que j'ai lu où j'ai compris absolument les sentiments que j'avais éprouvés devant un film, alors que vous n'expliquiez pas comme aujourd'hui.
Moi, je faisais une critique plutôt de sentiments.
Oui, je parle de la critique sur Amère Victoire.
Critique romantique.
La critique sur Amère Victoire.
Oui, puis quand je revois Amère Victoire aujourd'hui, je me dis, non, c'est pas...
Oui, mais la critique reste.
C'est pas ce qu'il a fait de mieux, mais il y avait ce mouvement. Il y avait ce mouvement-là.
C'était Au-delà des étoiles, je crois.
Au-delà des étoiles, c'était Amère Victoire.
Oui. Et il y avait dedans un moment quelque chose de dit que personne n'avait vu sur le film, c'était que c'était un film en gris et blanc et pas en noir et blanc. Bon, et à l'époque, ça paraissait aberrant. Et en fait, quand on a reconstitué du négatif la copie récemment, on a vu qu'en effet, Nicolas Ray l'avait tourné plus en gris et blanc. C'était pas une vision subjective. Mais dans le sentiment, dans le texte, parce que lyrique qu'il y avait...
C'est une critique plus de sensations et de sentiments, beaucoup. C'était
oui, mais
de ma part par rapport aux autres. Et souvent, j'étais... Romère, qui s'appelait, je crois déjà Romère à cette époque, je me souviens combien je m'étais fait gronder par lui pour ma critique de L'homme qui en savait trop. Et je me souviens très bien que je trouvais que raison parce que j'avais bâclé. Je ne savais pas vraiment quoi dire. Et lui, il sentait... Il disait non, j'aurais mieux fait de la faire parce que si vous ne savez pas quoi dire, il faut pas faire semblant.
Et pourtant, c'était la première critique sur Hitchcock où on parlait d'architecture de mise en scène, même si on en parlait de manière bâclée.
Je ne me souviens plus, mais je n'aimais pas la façon dont Chabrol et d'autres en parlaient, catholiques ou comme ça, je ne trouvais pas bien.
Ben, Romère.
Romère, mais il n'a pas fait de grande critique sur Hitchcock. Il avait fait le bouquin avec Chabrol, oui. Mais il n'avait pas fait de grande critique sur Hitchcock.
Il paraît que c'est vous qui l'avez tapé à la machine, m'a dit Romère.
Sur
le bouquin sur Hitchcock.
Ouais, ça, je m'en souviens pas. Lui, là, ça. Mais on a des trous. Moi, j'ai des trous énormes,
invraisemblables. Non, c'est anecdotique, mais c'est amusant.
Non, mais j'ai toute une période, je me souviens. Non. Je me souviens très bien comment je faisais les paquets, par exemple.
Les paquets.
Pour les abonnés. Bah oui, parce qu'il y avait un moment, tout le monde se défilait.
Ouais. Mais ce que vous venez de dire sur la sensation, c'est moi.
La sensation, il y a une belle phrase de Conrad que j'ai mis dans, que j'ai retrouvée après, qui m'a frappé dans, que j'ai mis dans Allemagne 9-0. À un moment donné, il dit les sensations, ces fidèles servantes de nos passions.
Parce que histoire du cinéma, moi je trouve que c'est, il y a un discours bien sûr, et il y a aussi les premières fois que je les vois, je dois dire, je dois les voir au moins deux fois avant de me débarrasser de quelque chose, pas m'en débarrasser, non, mais enfin de mettre un petit peu. C'est que moi d'abord j'ai une sensation en les voyant, j'ai l'impression
Non, tout à fait, que les
que
gens
c'est
qui...
voulu.
C'est comme ça, mais que les gens qui ne l'ont pas vu, comme Anne-Marie Méville, par exemple, qui connaît pas... qui connaît même moins bien que moi, et moi qui connais 10 fois moins bien que Rivette, ou quand même Païni, qui connaît beaucoup plus de choses que moi, qui a vu... Qui, ou que vous, comme ça, ou que Tavernier, ou comme... Pour moi, c'est une époque comme doit être la résistance pour d'autres. C'est pour ça que j'ai dû m'y intéresser ou comme ça. Et puis, sentiment que ça a été perdu et que moi-même, je dois retrouver un peu ce chemin-là pour accepter aujourd'hui et comme ça, tout en restant fidèle. Et bon, je ne me souviens plus ce que j'allais dire
Mais sur la
au sur quoi
sensation,
je partais au début, là, pour ça.
on partait de la sensation.
Ce que je voulais dire, c'était. Là, j'ai retrouvé, c'était que, mais sans idée préconçue, que les histoires du cinéma peuvent tout à fait être vues par quelqu'un. C'est pour ça qu'il n'y a surtout pas de droit d'auteur à payer à quiconque, parce que c'est l'humanité du cinéma dont on parle, et que quelqu'un qui ne sait pas de quel film, ça n'a aucune importance. Il a une idée du cinéma. Il a une idée. Le cinéma a fait ça et je ne le savais pas. Je ne le savais pas, on ne me l'a pas dit, les entreprises de culture ne l'ont pas dit, même les cinémathèques ne l'ont pas dit comme ça. Ils ont toujours mis un nom, un truc, une légende. Là, il n'y a aucun nom, il n'y a rien. Encore au début, des fois, je citais. Puis là, j'ai repris quelques passages de l'A1 comme ça m'énervait. J'ai enlevé, quand je pouvais, j'ai remis beaucoup plus de noir. En souvenir du fait qu'il y a toujours quand même un obturateur et un noir, et que ça revient, et que ça fait partie du cinéma. Mais s'il y avait marqué Epstein, pof, j'ai supprimé Epstein. S'il y avait marqué Vigo, pof, j'ai supprimé Vigo. Qu'on ne sache pas. Par contre, alors donc on voit Vigo et comment est-ce qu'elle s'appelait, sa femme, Luce, non,
Sa fille, Luce.
c'est sa fille, mais sa femme.
Ça, je sais plus. Faudrait
Enfin,
demander à Luce.
la photo de Vigo dans un petit
Oui,
village avec
la
elle,
photo.
avec un grand manteau, là,
Ouais.
comme ça. Bon, ben, je l'ai enlevé. Et alors, pour les gens, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils se disent? Ils disent, ah, ben, c'était un acteur, c'était quelque... Peu
Oui.
importe. Sur le fond, il n'y en a pas besoin.
Mais ce que je voulais dire, ça rejoint, c'est quand j'ai montré donc à ma fille de 8 ans
Et
et demi.
l'histoire devrait être faite sans nom. Ce qui ne va pas sur tous les bouquins aujourd'hui ou tout ça, ce n'est que des noms.
C'est l'affiche.
C'est l'affiche,
Là, plus loin, fiche.
oui.
Oui. Mais j'insiste là-dessus parce que je lui
Sur
montre.
le procès Papon, on ne devrait jamais prononcer le mot de Papon.
Ah oui, mais là, c'est
Pour que
le.
les gens comprennent
Là,
pour
ça
que les
serait.
gens comprennent la chose. Par contre, on devrait prononcer uniquement, mais oui, parce que c'est le procès d'un fonctionnaire. Et il n'ira jamais au bout d'une certaine façon, parce que c'est la fonction. Car tous étaient coupables. Et celui qui n'avait qu'une délégation de signature. C'est le procès de la délégation de signature. En fait, c'est encore pire. Si vous vous dites, tiens, ben lui, allez, on l'expédie demain à Drancy, vous tenez là, vous signez l'ordre,
C'est la main qui a signé.
Jules Y, c'est vous, et puis demain, il part à Drancy.
C'est la main qui a signé.
Voilà, demain, il part pour Drancy. Puis après-demain, moi qui suis votre secrétaire, je resigne le papier, parce qu'il le faut pour la. Il le faut pour les archives, qui ne seront du reste vues que dans 100 ans. Mais, donc c'est bizarre, mais il le faut. Et ben, je trouve que si crime il y a, mon crime est pire que vous, parce que je ne suis même pas l'auteur de ce crime. Vous, au moins, vous avez pris votre décision de l'expédier parce qu'il avait un long nez, et que ça ne vous plaît pas. Moi, je n'ai fait qu'avaliser, mais c'est encore pire.
Je dirais la main a signé quand
C'est
même.
encore pire parce que j'ai couvert, comme on dit. C'est ça qu'on appelle. J'ai couvert d'une certaine façon.
Alors, je reprends l'exemple que je voulais faire, c'est que je lui ai montré à ma fille de 8 ans et demi les 2 fois 50 ans de cinéma, et elle l'a vu, elle a regardé tout, et après
elle,
avait...
elle a quel âge?
Elle a 8 ans et demi.
Et elle fait... Ah oui, 8 ans et demi.
Mais elle a dit une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'elle
s'est
me
pas
dit...
ennuyée?
Pas, non, non, pas du tout, elle a dit « au secours, et puis ton ami, en parlant de Piccoli, téléphone. » Et elle a vu, elle a senti le rapport qui n'est pas dit... sur le « au secours » de Max Linder et le « au secours » du président du cinéma. Mmh. C'est-à-dire que par la sensation, parce que... bon, mais donc, l'enfance permet, on revient, on va faire dans la deuxième émission sur cette idée de l'enfance de l'art, l'enfance permet d'avoir cette, je dirais pas pureté, c'est un mot qui ne veut rien dire dans ce cas-là, cette perception, la sensation, sans s'embrigader dans « est-ce que je sais ou est-ce que je ne sais pas ?»
Oui.
Et ça m'a beaucoup frappé parce que ce au secours, elle me l'a dit 3-4 fois, d'abord sérieux, puis après en riant presque. Et après, je lui ai expliqué qui était Max Linder.
Après, ça devient un jeu.
Après, ça devient un jeu. Mais au début, c'est, ce qui m'a frappé, c'est pas qu'elle ait remarqué au secours, c'est le rapport avec Michel Piccoli au téléphone. Avec.
Oui, mais quelque chose qui ne se fait très peu et qu'on voit qui a disparu, même avec Anne-Marie Miéville, puisqu'on voit souvent, quelquefois, avec certains cinéastes, peut-être comme. Peut-être comme Guiguet encore, mais avec les autres même. On ne se recite pas ce qu'on faisait beaucoup du temps de la Nouvelle Vague, un dialogue. Mmh. Je m'en souviens, il y en a un que j'ai cherché, puis après j'ai oublié, c'était même dans la version doublée, dans quatrième vitesse. C'était Vavoum, le garagiste.
Des cravates.
On se les dit pendant, enfin des phrases, ouais. Comme mais qu'avait aussi le public populaire, comme tiens ta bougie droite, ou les petites fois, ou François, c'était ma petite Malou, je me souviens, dans les portes de la nuit, je crois.
Mais vous aussi.
Saturnin Frave, donc il est resté comme ça, qui sont très très proustes, et que chacun.
Mais vous aussi,
mais il y a une toute autre histoire, et ça c'est la vraie histoire, c'est les cailloux. Ensuite, il y a le terrain. Comment ça s'est fait? Où a-t-on pris les cailloux? Qui est l'ogre? Ce petit pousset, après tout, quel âge avait-il? Hein, tout ça, dans quelle forêt? Cette forêt, à qui appartenait-elle? Qu'est-ce qu'il y avait au-delà? Voilà, c'est ça. Mais on ne part pas de...
Oui, mais ce n'était pas aussi des codes de famille, parce que je me souviens quand Pierrot le
Fou... Non, moi, tout ce que je veux dire, c'est que l'histoire est mal racontée.
Oui, mais quand Pierrot le
Fou sortait,
on se disait
toujours...
On veut
tout de suite dire la légende,
oui.
Ou même l'opinion.
Oui, mais ça, c'est...
L'opinion. C'est... Puis après, ils s'étonnent, on dit, mais comment est-ce qu'on n'a pas lu ça? On l'a dit, mais on n'a pas... Mais cette histoire n'est pas faite. On dit, tout le monde savait, enfin, tout le monde, une bonne partie, savait, parce que les livres avaient été écrits, soit sur le fascisme, sur le nazisme, soit sur le stalinisme, que c'est devenu... Dès le début, il y a 3 ou 4 grands écrivains. Panayotis Strati était un grand écrivain, qui était lu, connu. Et après, rien. Alors... Quelle est l'histoire qui fait qu'on dit rien? Nous-mêmes, on a des tas d'histoires comme ça, personnelles. Même personnelles. Qu'est-ce qui fait qu'on ne veut pas se souvenir de ça? Que quand il y a une dispute d'amoureux, on ne voit pas. Donc, il faudrait raconter l'histoire un peu autrement pour qu'elle revienne à notre propre histoire individuelle. Mais peut-être n'a-t-on pas envie. Ce qu'on aime bien, c'est se disputer, s'asphyxier, puis quand même faire semblant que ça pourrait aller mieux.